attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension.
Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture IMS, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis content déjà de revenir derrière le micro. Aujourd'hui, je suis avec Gus. Salut Gus, comment ça va ?
Salut Flo, salut à tous. Donc le podcast existe toujours ?
Oui, le podcast existe toujours, voilà.
C'est... Je parle de Culture IMS, pas du podcast en général. C'est bizarre parce que...
La notion de podcast n'existe plus.
Quand vous voyez les groupes sur le groupe de discussion du podcast et qu'on voit des messages tous les 6 mois, ça me fait un peu peur, moi.
Mais pourtant, on est là, écoute, le podcast...
On va proposer une émission de qualité pour le retour, allez, c'est
oui,
parti.
Oui, allez, on y va. De toute façon, toi, tu n'as jamais lâché le micro puisque tu es encore sur Wake Up NBA. Jamais.
Bien sûr.
Je suis aussi avec Seb. Salut Seb, comment ça va ?
Salut, ça fait très très longtemps, ça fait plaisir d'être là. On pensait effectivement que le podcast était mort, qu'il s'était passé un truc,
Mais non, résultat, vous avez des nouveaux micros, écoutez, ça s'entend.
Ouais, mais c'est pour ça, je pense qu'on va enfin faire une émission de qualité.
Ne serait-ce qu'au niveau sonore, on va essayer.
c'est une belle remarque, hein. En fait, pour ceux qui veulent s'acheter des choses, ne faites rien, et ça vient à vous-même tout seul.
Voilà, c'est valable pour toute la vie, en
dans
fait.
Dans la vie.
C'est magnifique.
Je suis aussi avec Julia, salut Julia, comment ça va ?
Ça va.
Elle mange du fromage, voilà. Comme d'habitude.
Vous aurez les coulisses, bien évidemment, les coulisses de cette émission. Julia mange du fromage pendant l'émission parce que j'ai banni les chips, bien évidemment. Sinon,
du cheddar aux petits oignons confits fumés. Écoutez, voilà. Je vous le recommande. Ça se trouve chez le Auchan.
Écoutez, on est podcast et on est discounter aussi. Hein. C'est nouveau, c'est un nouveau concept. Parce que
quand les sponsors.
Justement, c'est ce que j'allais dire. On est sponsors. Et vous l'avez entendu, puisque lui aussi, maintenant, il a un micro. Je suis avec Banzied. Salut Banzied, comment ça va ?
Oh, bonjour à tous, vous m'avez tellement manqué.
Et déjà, tu vois, rien qu'avec le micro, on comprend ce que tu dis maintenant. Et c'est ça c'est assez incroyable.
Impossible.
Et nous sommes de retour aujourd'hui pour parler non pas de juste un sujet. On a décidé de prendre deux sujets, de les mettre dans un shaker, de mélanger et de les faire même se combattre. On a fait un octogone et tout, on s'est dit, allez, on met un film contre un film et on va commencer aujourd'hui. Alors bien évidemment, hein, tout le monde en a parlé cet été, de Barbie contre Oppenheimer. On s'est dit, c'est deux petites comédies assez légères, donc on va les comparer. Il y aura bien évidemment trois manches. Les équipes seront constituées de Gus et Banzied pour parler de Barbie et de Seb et Julia pour parler d'Oppenheimer. La première manche, ce sera sur le scénario. La deuxième manche, sur le jeu d'acteur. Et la troisième manche, sur la mise en scène. Ils devront défendre leur film jusqu'au bout. Jusqu'à la mort. Et ensuite, moi, en toute mauvaise foi, bien évidemment, comme d'habitude, je donnerai mon gagnant. Voilà. Donc, ils m'ont déjà envoyé des virements. Ils m'ont déjà fait des virements, ça, on va pas se le cacher. Mais je vous propose, avant toute chose, de passer à cette première manche de Barbie contre Oppenheimer. Alors, la première manche, c'est le scénar. Déjà, est-ce que dans chaque équipe, on va commencer là par c'est qui ? Je vais faire un plouf-plouf, c'est toi qui va commencer. Ce sera Gus qui va commencer, l'équipe de Gus, donc. Le scénar, avant de dire si vous avez bien aimé le scénar, pourquoi vous l'avez bien aimé, etc. Peut-être faire un petit rappel de quoi ça parle, en fait, Barbie.
Allez, je me lance. Eh bien, on découvre donc Barbie dans son monde de poupées très enfantin, etc., qui se retrouve bouleversée parce qu'elle a de la cellulite.
Oh mon Dieu !
Et en fait, elle se rend compte que ces changements dans sa vie et dans son apparence arrivent à cause du monde réel. Et donc, elle décide d'aller dans le monde réel pour changer ce qui lui arrive et redevenir une poupée et une Barbie stéréotypée.
Une Barbie parfaite.
Comme elle sait si bien le dire. Voilà. Et donc, il y a toutes les péripéties avec Ken, etc. Voilà.
Très bien.
Dans les grandes lignes, c'est ça.
Très bien, merci. Seb ou Julia, qui prend la main pour Oppenheimer?
Moi, je vais y aller.
Nous, bah, c'est salut, un sujet soirée. Beaucoup plus...
Mets de l'entrain, vas-y. Hein.
Franchement, c'était bien, c'était bien.
Ah, ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu, le gars est au bord de la dépression, quoi.
Déjà motivation 0 sur 20.
C'est pour ça, faut que je me réveille. Attends, ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu. Faut bien que je trouve déjà le ton, tu vois. Calme-toi, Mansuel. Du coup, pour le scénario, bah, on va faire simple. Hein. Nous, c'est un film très joyeux. Je pense qu'on peut pas viser plus haut. Hein. La création et le drop de la bombe atomique, hein.
Allez, tout simplement, en deux
voilà,
lignes.
Je pense que
allez,
déjà, voilà. Le niveau scénario, c'est pas très compliqué. C'est la vie d'un mec, voilà. Il y a rien d'incroyable.
C'est un peu léger comme...
C'est un peu léger, on est d'accord. C'est un peu léger.
Ça commence déjà, j'adore.
Je croyais que le battle, c'était à la fin.
Non, c'est l'adaptation d'un roman, hein. C'est important de le dire aussi. C'est merci, un Julia, roman biographique. Mais du coup, ça va jouer dans la construction du film. Hein. C'est pour ça qu'on précise.
Ok, donc en fait, la construction du film en elle-même, elle a une particularité. Après, tu me diras, c'est du Nolan, donc forcément, c'est forcément particulier. C'est...
Bah, clairement, tu n'es pas sur un biopic chiant avec juste « il est né, il a vécu, il est mort ». On est sur un truc vraiment bien construit.
Alors, il n'y a même pas du Hans Zimmer dans ce film, donc j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment du Nolan ?
Mais le scénario, oui, il repose bah, alors, sur l'histoire qu'on connaît, mais surtout sur la dualité, sur le paradoxe entre le bien, le mal, ce qui est tout blanc, ce qui est tout noir, et surtout sur le paradoxe qu'il y a entre l'avancée scientifique à tout prix et l'anéantissement d'un peuple.
Là, déjà, ça me parle un petit peu plus, tu vois.
C'est mieux vendu. Hein.
Ah bah, nous, c'est nous, eh bah, vendu, nous d'abord, ouais. Eh bah, c'était sur le patriarcat et le féminisme.
Super.
Voilà. Ok, super. Un film sur les woke. Ok, pardon.
Okay. Allez, les rageux, venez, on vous attend, là.
Non, mais du coup, est-ce que vous voulez rajouter un truc au niveau du scénar pour Barbie? Est-ce que...
Ah, vas-y, Manzied, on t'a pas entendu encore, donc
vas-y,
complète. Je regarde mes notes, et du coup, oui, tu as dit que ben, Barbie stéréotype, ben, elle se met à se poser des questions existentielles et à devenir humaine. Donc, elle va dans le monde réel, et qui c'est qui la colle? Eh ben, c'est Ken. Et Ken, lui, il découvre le patriarcat, il découvre que le monde réel est régi par les hommes, et il trouve ça incroyable. Et il décide de ramener cette idée à Barbieland.
Excuse-moi de te couper. Et du coup, est-ce que c'est expliqué le fait qu'elle devienne humaine ou...
Oui.
Oui, c'est expliqué. C'est pas juste du jour au lendemain, ta gueule, c'est magique, elle devient humaine, machin. C'est expliqué.
Non, oui, c'est expliqué. C'est un peu magique. Mais est-ce qu'on est là pour spoiler les films? Bon,
peut-être pas tout de suite. Bah, Oppenheimer, on connaît la fin. La fin, normalement.
Boum!
Soit il meurt.
Non, c'est pas ça.
Voilà. Mais du coup, non, on va essayer de pas trop spoiler. Ok, donc en fait, on a d'un côté un film où bah, ça raconte l'histoire, la genèse un petit peu de celui qui a créé cette bombe atomique. Et de l'autre, on a un film qui pourrait sembler, entre guillemets, puisque c'est une comédie un petit peu plus léger, mais qui au final, il y a un message dedans qui dit le patriarcat quand même. Vous êtes un peu, c'est un peu des trucs de connard, ça, vraiment.
Alors dit comme ça, oui, mais oui, bien sûr. Un vrai message dans le film.
Avec une vision un peu simpliste, ce serait ça. Moi, j'aurais à rajouter, parce que du coup, on est aussi là pour critiquer, donc il y a des choses aussi qui ne vont pas dans les films. Et y a pas mal de choses qui sont amenées au niveau du féminisme, au niveau du patriarcat, comme on l'a dit, mais qui sont pas forcément exploitées jusqu'au bout des choses. Avec une, je dirais plutôt que c'est vite résolu sur des problèmes bien plus profonds. Et du coup, je trouve que là-dessus, ça n'a pas été abouti autant que ça aurait dû pour passer un vrai message de. Plus marquant pour les gens qui y sont allés. Moi, je sais que dans ma salle, il y avait pas mal d'enfants. Pour les enfants, évidemment, c'est top, tu vois. Mais pour nous, en tant qu'adultes et personnes réfléchies, il manquait un peu de profondeur sur certaines intrigues ou sur certains problèmes soulevés, quoi.
Ok, donc en gros,
là-dessus, un peu déçu.
En gros, il y a le message qui est donné. Mais ça va pas forcément beaucoup plus loin, quoi. C'est, vous avez vu, on est capable de faire ça, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça.
Sur le principe, ouais.
Un film avec un raccourci et sans profondeur. C'est beau.
Tu l'as pas vu. Julia peut parler. Tais-toi.
C'est facile.
Je suis même pas sûr que les gens qui aient amené leur enfant aient compris vraiment si c'était pour les enfants ce film-là. Ils ont vu Barbie.
Il y a une double lecture.
Bien sûr.
Ah oui,
une double lecture.
Mais je trouve pas le film. Défendre Barbie. Même... Mais effectivement, c'est plus une très bonne introduction pour notamment des enfants à ce que peut être le féminisme et notre société. Donc, voilà. Ça peut être nécessaire dans cette optique-là et les gens un peu plus âgés peuvent juste passer un très bon moment.
Alors que nous, notre film, il est creusé, intelligent, réfléchi.
Mais c'est pas pour les enfants.
Et tu sors, t'as envie de mourir.
Non, du tout.
Absolument
en vrai,
pas.
Non.
Mais après, voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que d'un côté, t'as Barbie, on est sur une, mine de rien, sur une comédie. Donc effectivement, on est sur un film un petit peu plus familial, on va dire, que Oppenheimer. On est vraiment sur... Alors effectivement, il y a de la profondeur dans l'histoire parce que ça parle de la vraie histoire, de l'histoire avec un grand H. On parle quand même d'un moment important, mais en même temps, Barbie, est-ce que ce serait pas une institution non plus, tu vois? Est-ce qu'on parlerait pas de l'histoire? Enfin, c'est vraiment, je pense, à milieu de ça, mais enfin, il y a un peu d'histoire de Barbie, je pense.
Il y a de l'histoire de Barbie, mais tu vois, je dirais pas que c'est pas non plus un film entièrement, c'est une comédie, c'est drôle. Non, t'as Barbie, dès qu'elle arrive dans le monde réel, elle se fait harceler sexuellement. Genre, elle a des remarques grivoises et il y a un mec qui lui tape sur le cul.
Il y a Harvey Weinstein dans le film.
Si...
Allez.
Oh, le spoiler.
Ok, d'accord. Et
il fait un caméo très bien déguisé.
Et puis là, t'es là, t'imagines, t'as amené, je sais pas, ta fille qui adore Barbie et elle voit ça. Là, tu te dis, non, c'est peut-être pas normal.
C'est peut-être une erreur de la part de Mattel.
C'est montré dans le film que c'est pas normal. Donc, la gamine, elle va comprendre qu'il ne faut pas qu'elle se laisse faire si un jour quelqu'un lui fait ça.
Oui, après, et puis après...
La gamine, elle voit ça tous les jours dans la rue, hein, maintenant.
Oui, aussi.
Et puis après
même
ça...
À l'école.
Ça m'étonnerait pas non plus que y ait certains parents qui amenaient leur gamin qui comprenait rien. Tiens, vas-y, on va voir Barbie parce que t'aimes bien les poupées en fait.
Ouais, mais ça arrive là.
Après, il y en a, mais c'est pas parce qu'il y en a qu'il faut directement faire l'amalgame, stigmatiser. Peut y avoir.
Non, et puis c'est pas saucette, je partis non plus. Si tu veux, les gosses qu'on emmène, ils vont pas être trop mal.
Oh mon dieu, la moitié de la nouna.
T'as cette question de double lecture, encore une fois, où t'as un public averti qui comprend les choses et l'enfant qui se dit « Ah, c'est Barbie, elle est rose, elle est mignonne. Oh, il y a Ken, il est joli, il est mignon. »
Comme je dis toujours, s'ils comprennent, c'est qu'ils sont en âge de comprendre. Et s'ils comprennent pas, de toute façon, ça peut pas leur faire de mal.
Très bien.
Cette phrase peut être utilisée dans plein de contextes.
Oh.
Très beau message. Très beau message.
Oh boy.
Ah, je vais la réutiliser, cette phrase.
Non, s'il te plaît.
Pas dans, ouais, justement, pas dans ce contexte.
T'es l'exemple même qui faut pas.
Pas dans le contexte que tu penses. Oui, Lanciette, tu voulais réagir.
Non, mais j'avais cru lire quelque part que la réalisatrice et le scénariste, ils avaient eu totale liberté sur le scénario. Et même eux, ils étaient pas sûrs que Mattel les laisse faire, les laisse les décrire, parce qu'à un moment donné, t'as le conseil d'administration des présidents de la société Mattel.
Plus de trois syllabes quand même, c'est chaud.
Joué par Will Ferrell, hein. Donc il faut un gros méchant bébête.
Attends, on n'est pas à la manche 2 pour l'instant.
Et si on veut parler casting, on peut y aller.
Mais je vais parler vite fait du scénario.
Vas-y, repars sur le scénario, vas-y.
Et du coup, le scénario avait été construit pendant le Covid-19 et ils avaient une totale liberté dessus, c'est tout.
Et ça, je trouve que c'est vraiment pas mal à ce niveau-là, parce que autant là, le film de Nolan, c'est un roman, donc tu suis un peu le roman et tu y vas. Que Barbie, t'as toujours ce truc-là où c'est effectivement, comme tu le dis, c'est totale liberté. Et c'est pas souvent que les grands patrons d'Hollywood donnent totale liberté sur la construction d'un film, en fait. Il y a toujours ce petit truc de là, on va peut-être pas dire ça, c'est peut-être pas hyper glorieux pour nous. Donc,
Le projet en lui-même, il avait commencé en 2017, je crois. Ça devait être avec Anne Hathaway, par exemple. Et ça s'est jamais fait parce qu'il y avait toujours eu des problèmes avec le scénario. Non, pas dans Alice au Pays des Merveilles.
Il est brunophobe, ça veut rien dire. Il déteste le mec qui s'appelle Bruno.
Il déteste Bruno Solo,
Bruno Salomon. Oh, ces mecs, je peux pas les blairer, bordel. En parlant de Bruno Solo et de Bruno Salomon, transition toute trouvée, passons à la deuxième manche, le jeu d'acteur.
On trouve que Bruno Solo joue très bien dans Oppenheimer.
Ouais, impressionnant.
En parlant avant de ce jeu d'acteur, bien évidemment, on va passer du côté du casting et je vais donner là la parole à Seb et Julia pour Oppenheimer. Qui qu'il y a dans ce film ?
Des gens qu'on connaît pas trop, qui n'ont pas fait grand-chose avant. Voilà. Il n'y a pas dû y avoir de budget, là, encore. Mais déjà, pour te donner une idée, Oppenheimer, c'est Cillian Murphy. Cillian Murphy, c'est pareil.
Oh là là, ça y est, Cillian. Il
s'appelle Cillian.
Allez, il y a Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Emily Blunt, Matt Damon, Josh Hartnett, Rami Malek, Gary Oldman. Donc, je pense qu'on est posé, on est quand même pas mal.
Matt Damon.
Okay. Nous, très on bien. A John Cena. Voilà.
Est-ce que, franchement, ça fait le poids ? Je suis pas sûr.
En vrai, juste là, il vient de donner un argument de poids.
Mais alors, Nous, on a Robert Downey Jr.
Presque chauve.
Ouais.
Qui a pas d'armure.
Avec 30 ans de plus.
Waouh.
Et qui montre qu'il sait jouer autre chose qu'un rôle dans une boîte de conserve.
Bon, il l'a... Non, là, je suis pas d'accord. Il l'a montré... Il l'a montré déjà qu'il
sait jouer autre chose. Hein. Non, je pense que tu n'as pas beaucoup vu de ses films.
Ah, okay, si, j'ai vu Sonnet sous les Tropiques, déjà.
Monsieur le cinéphile, pardon.
Est-ce que tu as vu son film sur Charlie Chaplin de 3 heures ? Je ne crois pas, moi si.
Ok, alors, excusez-moi, c'est Barbie contre Oppenheimer, c'est pas la filmo de Robert Downey Jr. ici. Hein. C'est le podcast à côté.
Excusez-moi, je m'écarte. Voilà.
Le jeu d'acteur est juste énorme.
Ouais, la perf incroyable hein, de Robert Downey Jr.
Mais même Cillian Murphy, il est pas. Enfin, pour moi, il sort vraiment de son personnage. T'as pas l'impression de regarder encore une énième saison des Peaky. Non, il s'approprie vraiment le personnage. On sent le détachement.
Peaky Blinders, mais vénère là du coup.
Comment ?
Peaky Blinders, mais vénère alors du coup le gars. Il a construit quand même une bombe.
Voilà, hein. C'est une bombe, putain.
C'est ça. Vous me faites toucher, je vais tout péter. Non, mais en vrai, le jeu d'acteur est exceptionnel. Toutes les nuances sont bien jouées, que ce soit vraiment le côté, pour le coup, scientifique, un petit peu dans sa bulle, qui veut juste réaliser son projet scientifique parce qu'il est excité par ça et c'est son... Enfin, c'est son objectif, c'est son goal. Et tout le monde, en fait, autour de la réalisation de la bombe atomique, on sent qu'il y a vraiment une synergie entre les gens et tous les acteurs qui jouent des scientifiques sont vraiment focus uniquement sur ça, quoi. Il n'y a pas ce petit côté, enfin, je sais pas trop comment l'exprimer, ils se sont vraiment appropriés les personnages, mais tous.
Et puis, il n'y a pas, à mon avis, de dialogue superflu, en fait. Rien qu'à travers leur expression, l'ambiance, alors créée par la photographie, etc., mais rien que par leur jeu physique, ils arrivent à créer une ambiance qui fait que je suis pas sûre qu'il y ait tant de lignes que ça dans le scénario, alors que pourtant le film dure longtemps, mais rien que par leur jeu physique, ils arrivent vraiment à passer quelque chose.
Et pour le coup, enfin, honnêtement, pour avoir déjà vu des biopics ou ce genre de film, là on est complètement sur autre chose et il n'y a pas un moment où tu dis ouais, là il y a une longueur. Non, là, c'est trop, ça sert à rien, ça remplit pas, ça donne pas de fond à l'histoire. Là, on est vraiment sur quelque chose qui t'emporte du début à la fin. Et Nolan fait du grand Nolan. Au niveau de la façon de filmer, il y a deux timelines différentes qui se rencontrent.
Ok. Ah, c'est cool, ça.
Ok, j'en dis pas plus.
Ok, voilà, juste, il y a deux timelines différentes.
Et... On a le droit de dire du bien de l'autre film ?
Non. Ah, interdit. Pour ce soir, interdit. Tu pourras. Sur les réseaux.
Tous les acteurs jouent extrêmement bien et tous sortent des rôles dans lesquels on a l'habitude de les voir, en fait.
C'est ça. Et c'est ce que je voulais juste rajouter par rapport à cette histoire de double timeline. C'est que justement, en fait, le caractère des personnages, on sent que dans l'évolution par rapport au moment où ça se passe, il y a aussi une prise de conscience, il y a aussi une évolution, une maturité de chaque personnage. C'est pas juste, on a un rôle et on le joue point du début à la fin et ça tient sur deux jours, un an, machin. Non, là, il y a vraiment quelque chose de très très long et c'est hyper bien retranscrit.
Ok, très bien, merci bien. Waouh, c'était mine de rien.
Belle analyse, Seb.
Ouais.
Bien.
C'était bien. Belle analyse, assez complet, carré.
J'ai même envie de rajouter des trucs.
Pour une fois, le mec, il dit pas de la merde.
Ah, vraiment. Vraiment, je pense que c'est le seul truc que je vais couper au montage, du coup.
On va pas changer une équipe qui gagne.
Eh non. Pour l'équipe Barbie, ça donne quoi le casting et le jeu d'acteur ?
Casting, évidemment, Margot Robbie dans le rôle de Barbie. On a Ryan Gosling qui joue le rôle de Ken. Comme l'a dit tout à l'heure notre cher Banzied, on a Will Ferrell qui nous joue un CEO très, très maladroit, mais en même temps assez dark et avec des idées un peu sombres, un peu con-con. C'est super.
Ça me rappelle quelqu'un.
C'est plutôt bien foutu. Sinon, on a le casting de Sex Education aussi. Il y a tout le casting quasiment.
Ah ouais. Oui, c'est vrai.
On s'est fait la réflexion.
Oui, c'est vrai.
Je ne sais pas.
Voilà.
Elle est persuadée que j'ai vu le film avec elle. C'était
son amant.
Dommage. Oui, c'est vrai qu'il y a Emma McKay, il y a Nkutti Gatwa,
Connor Swindells.
Ah ouais, ouais oui, donc, bien représenté. Ouais, hein. C'est que ouais, c'est du cachet en force, quoi.
C'est un peu l'idée. On a du beau monde. Chacun, après, vu qu'il y a pas mal de personnages et tout, c'est assez étendu. Beaucoup de gros acteurs n'ont pas de grandes lignes de dialogue, mais ils sont quand même présents. Le casting est assez étoffé, donc c'est plutôt bien foutu. Pour le coup, ça, c'est le casting. Maintenant, le jeu d'acteur.
Oui. Excuse, t'as oublié, entre guillemets, il y a aussi America Ferrara.
Je vais pas donner tous les noms qui sont.
Oui, mais c'est entre guillemets l'un des personnages principaux.
On peut le donner, effectivement.
Elle est plus connue sur le rôle du Glee Betty, mais oui. du coup, c'est une personne réelle qui travaille dans le monde réel, qui travaille chez Mattel, et qui va faire la rencontre de Barbie. Ça reste un des personnages principaux qu'on apprend par la suite.
D'accord. Un des personnages clés de l'histoire.
Ok, très bien.
Avec sa fille.
Niveau jeu d'acteur, moi, je voudrais tirer mon chapeau à Ryan Gosling. On a un Gosling qui nous fait... avec les trois parties du film, on a un Ken qui est tellement différent sur les trois parties que je trouve totalement maîtrisé, totalement dans le rythme. On a un Gosling au tout début du film, donc dans Barbieland, qui est amoureux de Barbie, mais qui sait pas trop comment le dire, parce que dévoiler ses sentiments quand on est un jouet, ça n'existe pas. Enfin, il y a plein de choses assez bien travaillées là-dessus. En même temps, il est super drôle, très maladroit et tout. Quand il débarque dans le monde réel, il découvre le patriarcat, et là, en vérité, la métamorphose est folle.
C'est juste génial.
Il s'attache même pas aux vraies valeurs entre guillemets du patriarcat, à tous les trucs qui peuvent exister. Non, pour lui, genre le patriarcat, c'est des chevaux et des motos, tu vois.
Et des tracteurs. et les chapeaux de cowboy.
Ok, donc on est aux États-Unis, très bien. Jusque là, ça me va.
donc ça, c'est super super drôle. Et on a aussi du coup le Ken macho qui débarque, enfin qui revient à Barbieland, et là le maestro, quoi. Vraiment, il est horrible, il est comment dire, on a envie de le détester, mais en même temps c'est super bien foutu, enfin vraiment Ken.
Est-ce qu'on aurait pas envie de le Ken,
dans le rôle de Ken? Oh bah en vrai ouais, hein, tous les jours, hein, parce qu'il est méga BG dans le...
Et ça c'est le jeu de mots de l'affiche, hein.
Oui bah non mais merci, Banziette qui déconstruit.
On a plus le droit de faire des conneries, voilà.
Il y en a qui savaient peut-être pas, je veux dire,
Moi je savais pas, c'est juste Ken.
Oui, lui il veut juste Ken, voilà, c'est...
Non, il non, sait
lui,
juste
c'est Ken. Juste Ken, oui.
Barbie Pardon. Sait tout faire, lui c'est juste Ken.
Oui, voilà. C'est vrai.
Putain, c'est réfléchi. Il y a des gens qui travaillent là-dessus quand même.
Ah non, mais quand même, déjà rien que la vanne, je la trouve magnifique. Tu peux pas la faire dans partout. Tu l'as fait qu'en France.
C'est clair. Et du coup, Gosling dans le rôle de Ken, c'est génial. En plus de ça, on a tout le développement du personnage qui le rend hyper attachant. Même en fait, quand il est macho et qu'on a envie de le frapper, mais en fait, il est même à ce niveau-là, on peut comprendre ses motivations et tout. Et du coup, je trouve ça super drôle.
Parce qu'à la fin, oui, il le dit pourquoi il se sent mieux comme ça, mais en fait, c'est pas
vraiment lui, quoi. Mais
c'est pas vraiment lui.
Ok.
Mais bon, bref. En tout cas, Gosling dans le rôle de Ken, c'est juste magique. Je sais pas ce que Banzied en a pensé, même si Julia peut dire confirmer ou pas avis.
Non, juste le confirmer que Ryan Gosling... En plus, on l'a pas vu que dans des rôles drôles, justement.
Ouais. Ça faisait plutôt longtemps. Du coup, ça nous change.
Il est...
Le dernier temps, c'était pas des rôles super drôles.
C'est un super comédien.
Et puis je pense que voilà, Ryan Gosling c'était entre guillemets l'un des castes parfaits pour Ken. Et puis Margot Robbie, qui ça aurait pu être d'autre, je sais pas.
Anna Taoué, tu l'as dit avant.
Mais elle est brune, rappelle-toi.
Ah mince. Oh non mince.
Oui mais Margot Robbie.
Ah, toi aussi t'aimes pas les Bruno.
Beaucoup de mal.
Les deux sont entre guillemets. Alors après j'ai de la carrière donc franchement.
Ok très bien. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un truc sur son film?
Oui.
Ou sur le film de l'autre, ou sur un autre film qui n'a rien à voir. Non, ça, vous ne le faites pas.
Non, bah du coup, on peut s'attarder un peu sur Barbie, qui est quand même le rôle principal. Banzied n'a pas trop parlé de ça.
Bien
mais
sûr.
Du coup, elle est... Donc, comme Gosling, elle est impeccable, mais on l'attendait à ce rôle-là, au vu de ce qu'elle sait jouer, et de la bimbo que c'est, en fait. C'est comme il l'a dit, c'est le rôle parfait pour elle. Du coup, pas vraiment...
Et même dans le film, ils le disent, hein.
Et ouais, même, mais ouais, d'ailleurs, ça, bon, on en parlera dans la mise en scène après, mais il y a une voix off très sympa. Mais du coup, ouais, moi, je trouve que quand elle commence à devenir une Barbie non stéréotypée, on sent en même temps l'innocence de la femme qu'elle devrait être en tant que jouet, mais en même temps, on sent un peu l'innocence et tout. Et
pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi?
Ouais, genre, tu sais, elle se pose des réflexions qui sont pas humaines pour un jouet, alors qu'elle a des actions et des réactions d'un jouet, tu vois. Genre, comment elle se déplace, bon, ça sera de la mise en scène aussi, on va pas tout étaler maintenant. Mais il y a cette certaine maladresse, et en même temps, elle a une réflexion un peu humaine, et du coup, ça rend le truc assez bien mis en place. Et du coup, pas vraiment surpris de ce qu'on connaît l'actrice, mais plutôt bien utilisé la transition entre le moment où elle est un jouet et elle se rend compte qu'en fait, bah, elle est peut-être un peu plus que ça. Voilà.
Ok, bon, Zied, est-ce que tu veux rajouter un truc? Parce que c'est vrai que là-dessus, sur le jeu d'acteur, ça t'as pas trop entendu, complet. Mais c'est vrai que ça me paraît plutôt complet, mine de rien.
Non, je vais juste m'attarder vite fait sur la fille de... Oh, comment dire?
D'America Ferrara.
Oui, d'America Ferrara, jouée par Ariana Greenblatt, connue pour Love and Monster et Gamora jeune et Ahsoka jeune.
D'accord.
Okay. À un moment donné dans le film, elle fait aussi un autre discours féministe sur qu'est-ce qu'a causé l'arrivée du jouet Barbie dans la société. Et j'ai trouvé ça assez profond quand même. Et comme quoi, la jeune actrice est plutôt juste dans son rôle et ça tombe bien.
Très bien.
Alors, est-ce que du coup...
Oui.
Je peux rajouter une petite louchette sur les seconds rôles pour notre film à nous.
Mais vas-y, oui, bien sûr. Bien sûr. Vas-y, vas-y.
Justement, je pense que, effectivement, on l'a dit, le film est quand même porté par Cillian et Robert Downey Jr., mais en vrai, les seconds rôles, ils sont exceptionnels. Perso, à un moment, j'ai vu Rami Malek à l'écran, je fais, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh, c'est un petit rôle, bon, c'est mignon, ça va.
Rami Malek, c'est une surprise.
Chaque punchline de ce mec est juste exceptionnel. Son rôle est vachement bien, sa présence, son acting est parfait aussi. Enfin, ils l'ont très bien choisi. Et même Josh Hartnett, au début, je pense que même Julia, elle a mis un peu de temps à le reconnaître. Mais sur le coup, enfin, tu te dis...
Rami Malek, tu te demandes ce qu'il fait là au début, et puis la fin...
Pouah. Il joue le rôle d'Adolf Hitler.
Il arrive vraiment aux trois quarts du film, quoi.
Vraiment, ça n'a aucun sens.
Non, mais c'est ça. En fait... Quasiment tous les seconds rôles qui sont portés par des acteurs quand même très connus, tu les vois passer, tu te dis « Ouais, bon, clairement, ils ont mis un billet pour être là parce que ça leur faisait plaisir » ou ce que tu peux avoir genre dans d'autres films avec « Il faut être dans ce film-là parce que c'est un film événement ».
Ouais, mais déjà, en fait, déjà tu vois, tu viens de le dire, c'est ils ont pas pris, ils ont peut-être pas pris grand-chose parce que ça leur faisait plaisir d'être là. Il y a plein de films où les acteurs, ils vont juste pour cachetonner, en fait.
Ouais, mais là, c'est même pas... J'ai l'exemple en tête de Star Wars avec James Bond où, en fait, tu le vois pas, il est en Stormtrooper et c'est qu'au générique où tu le sais.
Ah oui, Daniel Craig, oui. Ah ouais.
Et là, en fait, tu te dis... Chaque personnage qui va être incarné par un gars qui est très connu et qui a un tout petit rôle... Il le joue tellement bien et ça sert tellement l'histoire que bah, c'est beau, en fait.
Même le mec qui joue Einstein.
Spoiler, il est dedans.
Ouais, est-ce que vous l'avez, vous, dans votre film? Je ne crois pas.
Non.
Ah, nous, on a Dua Lipa. Barbie sirène.
Ouais, allez.
Qu'est-ce que tu vas faire?
Avant de passer à la troisième manche qui sera sur la mise en scène, je vous propose une petite minute du cul, comme ça. Tranquille.
Oh, allez, voilà. Oui, allez. Ça fait longtemps. Petit générique?
Oui, petit générique, bien évidemment.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh bien non, mesdames et messieurs, moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres, et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle.
Quasi, active la minute du cul en rotant.
Et donc, pour cette minute du cul, je me suis dit, on fait un battle, donc... Je vais pas être hyper original, on va faire un Barbie, Oppenheimer ou les deux. Donc okay, je vous donne des propositions, et la réponse c'est Barbie, Oppenheimer, ou des fois c'est les deux. Si par exemple je vous dis Cillian Murphy.
Oppenheimer.
Ouais, et je me suis dit, mais c'est qu'il y a un temps de latence ou quoi, où les mecs vraiment...
Je me suis dit, non mais on se demande où il est le piège,
c'est Oppenheimer. Il y a peut-être des pièges, mais Margot Robbie.
Barbie.
Très bien. Intelligent.
Les deux,
bien évidemment, a repris quelque chose des Allemands.
Les deux.
Les deux.
Bien joué, puisque effectivement Barbie est inspirée d'une poupée allemande et oui. Le phénomène exploité un petit peu par Oppenheimer, qui est le phénomène de fission nucléaire, il a été interprété d'abord par des Allemands.
Tout à fait.
A fait tous les métiers du monde.
Barbie.
Barbie.
Bah, oui. Barbie. Oppenheimer, il n'a pas été boucher charcutier, je crois.
Mais il a été hôtesse de l'air.
Et.
Pas mal. Elle est belle celle-là.
C'était en 1938. Bon, une passade.
Une passade.
Bombe atomique.
Les deux.
Les deux.
Ah,
les deux.
Non, les oui. deux. Et...
Joli.
Et alors, attention.
Les percute, hein.
Connais les nazis.
Les deux.
Ah,
Oppenheimer.
Ah, j'étais plus sur Oppenheimer parce que Barbie a été inventée dans les années 50. Donc
Barbie, elle est toujours comme ça. Hein.
Oh. Alors, pour mimer l'image, il y a un bras levé.
Non.
Ben, voilà.
Déjà, quand tu dis le « comme ça », je pense que les gens, ils savent.
Les gens s'y attendent. Enfin, s'y attendent. Non, peut-être pas, j'espère pas. Mais les gens savent. Et enfin, le dernier, c'est cancer.
Oppenheimer.
Bah, je dirais les deux, du coup. Du coup, il n'a pas l'air content.
Alors, c'est Gus qui a raison, c'est les deux. Puisque Barbie est sorti le 19 juillet en France, donc c'est un film qui est sorti sous le signe du cancer. Et Oppenheimer est mort d'un cancer. Voilà.
Magnifique.
Ça, c'est pas surprenant, par contre.
Est-ce qu'on n'est pas sur la meilleure fin d'un jeu de tous les temps ?
Incroyable.
L'avenir nous le dira.
Ça m'avait
bon travail. Hein. Il y a de la recherche.
Et, écoute, on fait ce qu'on peut, hein, avec les moyens qu'on a. Nous allons maintenant voir qui va sortir son épingle du jeu avec la troisième manche sur la mise en scène. Et je vais demander cette fois-ci à Banziette de prendre la parole pour Barbie.
Alors, comment dire,
comme j'ai mal à l'aise.
Oh, j'ai mal à l'aise. Un peu de mal avec ce concept. Qu'est-ce que tu entends par mise en scène, s'il te plaît ?
Bah, la mise en scène, comment c'est filmé, comment la mise en scène est pensée, est-ce que c'est méta ? Enfin, tu vois, Gus, c'est Gus qui disait qu'il y a... Non, c'est toi qui disais qu'il y avait une voix off ?
Non, c'est
oui,
moi.
Non, c'est Gus. Gus disait qu'il y avait une voix off. Donc, ça fait partie de la mise en scène. Ça, c'est le pro. Enfin.
Alors, la mise en scène, déjà, le film Barbie, il commence...
Tu fais du théâtre, toi, on est d'accord. Ouais, d'accord, non, c'est pour voir le concept de mise en scène, vraiment.
Est-ce que t'as vu le... Moi-même, je l'ai pas vu. 2001, l'Odyssée de l'espace.
Non.
Bah, le film Barbie commence là-dessus, d'accord. Avec des poupées genre normales, tu sais, celles qui font peur un petit peu, okay. Dans un film d'horreur. Et puis t'as Barbie qui arrive.
Ah, ça commence comme la bande-annonce. La bande-annonce au début où il y a un monologue sur les enfants de tout temps jouer machin,
oui,
etc.
Ça.
Oui, d'accord.
Avec la voix off de Hélène Mirren pour la
narration.
Oui, on a quelqu'un de badass.
Voilà.
Et c'est Barbie est dès le début du film mis sur un piédestal. Et Barbie Land, tout est parfait. Toutes les femmes ont les positions importantes de Barbie Land. C'est elles qui contrôlent Barbie Land, elles ont les rôles importants, elles sont les plus intelligentes. Les Ken, ils sont juste là pour faire des petites activités, quoi. C'est des enfants, les Ken.
Les Ken sont au Club Med, quoi.
Exactement.
Genre, sur la plage, c'est les Barbies qui jouent au volet et c'est eux qui ramassent les balles, tu vois.
Très bien. Déjà, j'adore.
Tout est parfait dans Barbie et ça, c'est vraiment, vraiment super bien transcrit, en fait, dans Barbie Land. J'ai pas joué au Barbie, hein, je tiens à dire.
Et pourquoi
on peut aller plus loin sur les décors et tout, hein, c'est hyper coloré. On a une utilisation au niveau des personnages. Donc en fait, ils sont déplacés dans le monde de Barbie Land comme si c'est nous qui les portions à la main. Genre par exemple, pour sortir de sa chambre, au lieu de descendre des escaliers, elle est portée jusqu'en bas, tu vois. Elle vole, en fait.
Genre, elle flotte dans les airs.
C'est excellent.
C'est pas bien foutu. On a
La nourriture, elle est fausse. Elle fait semblant de se brosser les dents parce que c'est Barbie.
Elle fait semblant de se boire.
Faudrait pas se salir.
Voilà, c'est ça. Donc là-dessus, je trouve que c'est plus l'aspect joué est super bien fait, super bien, super drôle aussi, évidemment.
T'as beaucoup de maisons et de costumes qui ont été inspirés des jouets qui sont sortis, bien sûr.
Évidemment.
Et c'est vraiment pastel, bleu, rose, blanc. Hein,
dans l'idée, c'est ça, ouais.
Faut pas te dégoûter de la couleur, mais... D'ailleurs, t'avais eu une histoire par rapport au rose, la couleur rose.
Vomi des arcs-en-ciel, oui. Oui, où il y avait eu des ruptures de stock dans certains magasins.
Il y a eu une rupture de stock de cette marque, précisément.
Vas-y, moi, je voulais ajouter aussi, tu vois, par exemple, c'est con, mais les maisons dans le film sont comme les maisons de poupées pour enfants, donc il n'y a pas de mur, il n'y a rien.
Ouais,
comme je l'ai dit. Ouais. Par exemple, il y a un moment dans le film où Ken et Barbie s'engueulent. Et en fait, il s'engueule à travers un mur qui n'existe pas. Et du coup, pour sortir, alors qu'il est devant elle, eh ben, il rentre dans la maison puis il sort par la porte, tu vois. Alors qu'il aurait pu sortir comme ça. Je trouve que c'est... Moi, c'est des trucs qui marchent sur moi, tu vois.
Ça, ouais, c'est plutôt pas déconnant, ça.
On a aussi, du coup, la voix off pour ajouter aussi. Elle brise un peu le quatrième mur puisqu'elle nous pose des questions. On est vraiment inclus dans le truc. Donc ça, c'est intéressant aussi. Au niveau mise en scène, il y a un truc qui m'a un peu saoulé. Je trouve que le
trop de rose.
Non, même pas forcément. Je trouve que ça, c'est pas un problème. En fait, quand Barbie et Ken débarquent dans le vrai monde et qu'ils arrivent chez Mattel. On a, en fait, je m'attendais à ce que les gens de Mattel soient pas aussi cartoonesques et ressemblent plus et agissent plus comme des vraies personnes. Là où du coup, tout autour d'eux, c'est comme dans la vraie vie. Sauf eux qui agissent bizarrement, très cartoonesques.
Comme des gros bébés, quoi.
Ouais, là-dessus, pour le coup, je trouve ça un peu moins... Quitte à mettre, tu vois, genre des mecs hyper à fond sur le marketing, sur la rentabilité, mais qui soient des... fait de façon à ce que ce soit des personnes qui ressemblent à des vrais humains. Là où c'était pas trop le cas, ça, c'est le seul truc assez caricatural qui m'a un peu déplu parce qu'en fait ça aurait pas dû être ça. Parce que c'est des vraies personnes.
Oui, parce que c'est Mattel et c'est vraiment la société mère qui créait Barbie et du coup c'est, voilà, ça devrait pas être comme ça, ça devrait être... Ben non, c'est des humains en fait.
C'est ça, exactement. Et sinon, bah après, évidemment, les costumes sont magnifiques, les décors sublimes, comme je l'ai dit. On a une belle association de couleurs. Visuellement, en fait, à l'œil, c'est magnifique. Même au cinéma, tu te dis, est-ce que voir Barbie chez soi ou au cinéma, et ben en fait, au cinéma, ça, il y a une dimension encore plus grande. C'est vraiment génial visuellement. Donc, au niveau mise en scène, je pense que j'ai fait le tour dans mes notes. Ouais, il me semble que j'ai fait le tour avec ce qu'a dit Bjorn Banzied. On doit avoir tout dit.
Ok, très bien, merci bien. Oppenheimer, est-ce qu'on est dans le rose? Est-ce qu'on est dans le...
Nous aussi, on a été éblouis par le flash de la bombe atomique.
Oh, allez, c'est magique.
On le voit même pas en direct.
Non,
c'est pour ça que tu louches.
Dans la mise en scène. Dans la mise en scène, alors déjà le film dure 3 heures, donc moi j'avais un peu d'appréhension à aller le voir, et au final, la mise en scène a fait que je n'ai pas vu les 3 heures passer, concrètement, alors que c'était un dimanche soir, qu'il y avait école le lendemain, franchement.
Ouais, et c'est rare, parce que vraiment, le dimanche, t'as pas envie de te dire, je me tape 3 heures.
3 heures, c'est un biopic.
Mais d'un côté, c'est long, mais en fait, ça se disperse pas, en fait. Dans la mesure où, comme le scénario, la mise en scène repose sur la dualité. Elle sert le scénario tout en faisant en sorte qu'on comprenne la dualité entre le bien et le mal, et en fait, ici, entre l'avancée scientifique et l'arme mortelle. Donc en fait, le scénario de base, on peut dire, est assez simple parce que ça part de cette idée-là, mais elle est poussée à l'extrême et travaillée à l'extrême, ce qui en fait un film complexe. On a une image qui, dès le début, est sublime avec des gros plans, comme on a l'impression presque au début de voir un volcan en éruption. La caméra s'écarte et on se rend compte que c'est la bombe atomique. Donc en fait, on voit des images, on se dit « Waouh, ouais, qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique, c'est la bombe atomique !» Ok, donc dès le début, on est plongé dans cette dualité de « Ok, on trouve ça magnifique, mais ça a un peu tué beaucoup de gens. » Donc, on est tout de suite dans l'empathie.
Je vais en mettre deux.
C'est joli, mais...
C'est ça. Et c'est ça que ça va nous faire ressentir tout du long. On rentre vraiment dans le pathos parce qu'on se dit, ah ouais, quelque part, on peut comprendre l'avancée scientifique, en même temps, ça tue des gens. Et nous-mêmes, on se pose la question. Et derrière, l'irraisonnable, on a l'humain, en fait. Et c'est pas un film sur la bombe atomique, c'est plus un film sur l'humain qui a inventé la bombe atomique, et c'est un film humain, ça inverse cette réflexion-là. Quand on pense à la bombe atomique, on pense pas juste à la science, à l'arme mortelle, là ça nous fait basculer du côté humain.
Puis le rythme,
oui,
le rythme est exceptionnel, enfin, il n'y a pas de temps mort, il y a une réflexion, enfin, chaque plan est nécessaire, il n'y a pas de truc où tu te dis... Ouais, bon, ils sont gentils, ils nous filment un pot de fleurs pendant 5 minutes, on voit l'intérêt du pot de fleurs, mais ça, il n'y a pas que ça, quoi.
Si vous voulez, pas forcément niveau rythme, mais c'est une série, ça n'a rien à voir, mais je me suis fait la réflexion, et quand j'ai fait mes recherches, je suis tombée sur la même chose. Dans le côté empathie, qui rend le côté scientifique un peu humain, ça m'a fait penser à Big Bang Theory, alors qui pourtant est très drôle. Mais en fait, la science est un prétexte à rentrer dans l'humanité de ces personnes-là.
D'accord.
Et en fait, on trouve exactement ce côté-là.
Là, je vois le truc,
Alors, le registre n'est pas drôle, mais on est vraiment sur la dimension humaine que peut prendre la science. Donc, c'est assez drôle parce que le parallèle, il m'est venu tout de suite parce que je ne suis pas non plus une femme de science. Donc, pour moi, effectivement, des séries, des films sur la science, il y a Big Bang Theory qui rentre un peu dans le lot. Et bien, il y a quand même quelque chose. Et bien, le résultat fait qu'on s'implique émotionnellement et qu'on se demande même, moi, qu'est-ce que j'aurais fait ? Je ne sais pas, au final.
Et puis, c'est vraiment bien amené parce que tu as ce côté, tu suis les scientifiques dans leur développement, ce que j'ai déjà dit, mais c'est surtout qu'en fait, ils sont tous encouragés, ils sont poussés par un État, par la nation, c'est la patrie. Il faut faire cette arme atomique pour justement défendre les alliés, gagner la guerre et en finir avec l'ennemi. Et après, on a une redescente en même temps dans le film à dire...
Une descente aux enfers.
C'est pas une descente aux enfers, je suis pas d'accord avec toi. C'est plutôt
un accusé de...
Tu prends le gars qui, justement, est arrivé à l'apogée de sa carrière, à la consécration, il sort son truc. Bon, ça a les effets que ça, mais dans l'absolu, c'est ce qui met un terme quand même à la guerre. Donc, il y a quand même une liesse autour de ça. Et de l'autre côté, il y a une descente effectivement qui commence, mais qui est plus...
Ça, le gouvernement va commencer à lui reprocher ce qui, à la base, il l'a un peu forcé à faire.
Oui, oui,
mais vous êtes sûr ?
C'est plus facile de se dédouaner.
Dans la chasse, à cette période-là de l'histoire de l'Amérique, c'est toujours un truc qui m'a presque choqué, la chasse aux communistes.
C'est la pire sort.
Mais en fait, t'as pas une déconsidération de l'arme en elle-même, t'as une déconsidération de l'homme qui a créé l'arme pour pas qu'il n'ait trop d'influence au niveau du pouvoir des États-Unis. On va aller chercher dans son passé des choses qui ont aucun lien avec sa réussite.
Ah, il aurait pas dû mettre ses tweets sur les Noirs et tout, c'est vrai que...
Mais clairement, enfin... Tu vois, c'est ça, c'est le gars, on sait qu'il est copain de Harvey Weinstein, on sait que il a fait des saloperies et qu'il était dans des trucs avec une capuche, enfin, tu vois...
Ça fait beaucoup, là, non ?
Non, rien à voir. Le fond du sujet, c'est quand même que on a quelqu'un qui est monté au plus haut des paliers scientifiques, qui a réussi des choses extraordinaires parce que
on l'a forcé à faire aussi. Hein.
Oui, alors on l'a forcé, oui et non.
On l'a poussé.
Voilà.
On l'a poussé.
On l'a mis dans la direction et on lui a dit, regarde, c'est ton but. Et même lui, il a été passionné.
Et on va tout donner pour y arriver.
Il a pris conscience de l'enjeu en fait sur l'humanité.
Et ça, c'est bien illustré à travers trois parties. Comme on l'a dit, c'est construit à la base sur un roman qui lui-même comporte plusieurs chapitres. Et Nolan, effectivement, aime bien les chapitres aussi. Oui. Donc là, on a vraiment trois parties, trois chapitres différents. On a vraiment la montée. On a une phase, pas qui stagne, mais où l'histoire est installée et on développe l'avancée scientifique en elle-même. Et on a cette espèce de redescente au dernier chapitre où là, c'est la déchéance d'Oppenheimer.
Ouais. Et ce qui est très drôle, c'est que même dans la construction visuelle du film, tu as deux chapitres qui sont annoncés tout de suite. En 10 minutes, tu as fusion, fission. Et ça te permet de... Alors, c'est toi qui me l'as dit, donc je te laisse le dire, mais tu prends pas, en fait, un parti uniquement sur la temporalité.
C'est ça, parce qu'il y a une particularité dans ce film aussi, on le voit pas forcément dans la bande-annonce. Moi, ça m'a un peu désarçonné, parce qu'on se rend compte, dès le début, qu'il y a pas des chapitres, mais vraiment des scènes en noir et blanc et d'autres en couleur. Donc, au début, on se dit, OK, on comprend qu'à tous les coups, le noir et blanc, c'est le passé en couleur, comme c'est un film long. C'est ce qui se passe à l'époque, sur la fin. Absolument pas. On se rend compte très vite aussi que ça n'a aucun rapport avec l'intemporalité. Donc moi, j'ai commencé à me poser la question de pourquoi le noir et blanc à un moment, pourquoi la couleur à un autre. Et moi, ce qui m'est venu, c'était que, ce qui était en couleur, c'était le point de vue d'Oppenheimer. Quand il est question de lui et un peu de comment il voit les choses, et en noir et blanc, du personnage joué par Robert Downey Jr. et un peu du gouvernement, en fait.
D'accord.
Et alors, j'y étais presque, parce que j'ai voulu creuser un petit peu aussi. Et effectivement, c'est ce qu'a expliqué Nolan, que lui, en fait, la vision d'Oppenheimer était effectivement en couleur et que c'était sa vision à lui subjective, et qu'en fait, tous les passages en noir et blanc illustrent une vision... objective, en fait.
D'accord.
Des événements.
Ça, c'est hyper intéressant.
C'est ultra fort.
Dans le film, c'est juste pour ça, juste pour cette dimension-là, il faut le voir, en fait.
Et puis ça désarçonne parce que c'est pas du tout un usage habituel, justement, de cette alternance.
Dès le début, tu te dis, c'est bon, on va avoir des scènes flashback, on va avoir des scènes...
C'est le présent, absolument pas.
Rien à voir. Et puis, enfin, on revient sur la construction des persos. 2 secondes. On a juste Oppenheimer qui vit sa vie. Et qu'un humain, certes, un petit pas cliché scientifique, mais tu sens que il y a la science qui l'épanouit et qui voilà le construit, et à côté le côté humain qui est pas si, enfin qui est pas aussi facile que pour les autres.
Qui est pas candide.
Voilà, il a pas ce, enfin puis même dans les affinités, tu sens qu'il y a quand même une distance par rapport aux autres êtres humains. Il est pas non plus ultra proche. Je trouve pas qu'il ait des interactions
c'est
sociales.
C'est un peu en
faciles.
Sheldon Cooper.
Ok, voilà. D'accord.
Et je vois l'idée.
D'ailleurs, dans le film, quand il fait Bazinga, enfin, incroyable.
Tout à fait.
Franchement, on s'y croit, on y est. Tu vois. Et à contrario, bah, Robert Downey Jr., lui, c'est vraiment le mec qui est émotionnellement humain avec du j'ai besoin de la reconnaissance des autres, j'ai besoin de. Enfin, c'est pas j'ai besoin d'être aimé, parce que c'est un
j'ai
peu
besoin
gros,
du pouvoir.
Il crée des relations pour avoir du pouvoir et
voilà. Il y a, deux choses qui l'importent, c'est le pouvoir et la domination. Enfin, ouais, pas la domination sur les autres, mais voilà, cette idée de.
De maîtriser, ouais. Ouais. Et après, moi, il y a un truc que j'ai trouvé. Alors, ça, j'ai pas trouvé énormément de choses sur Internet, c'est que mon point de vue à moi, mais je trouvais intéressant d'ouvrir sur ça. C'est une question plus personnelle sur la photographie et l'ambiance. Parce qu'il y a certains éléments qui semblent toucher à l'art et à la peinture, en fait, vraiment particulièrement. En fait, dès le début, bon, ça, c'est pas du tout subtil, on a un portrait peint par Picasso. Et donc, il représente un visage cubiste, un portrait de femme. Donc, tout de suite, ça, on peut faire le lien avec le fait que, Picasso avait des accointances politiques un peu particulières, on les retrouve dans le film aussi. Mais le fait que bah, les gens touchés par la bombe sont défigurés. Donc, il y a quelque chose comme ça, d'essayer de faire sentir que oui, le paradoxe encore là de l'art, de quelque chose qui est censé être beau mais qui produit quelque chose de moins beau. Ça, c'est pas très subtil parce que c'est dit dès le début. Mais alors, moi, j'ai vu un petit peu plus loin, j'ai vu des choses qui m'ont sauté aux yeux mais que j'ai pas retrouvées ailleurs. J'ai vu beaucoup de références à Magritte. Et en fait, en cherchant encore un peu, j'ai vu que Nolan aimait bien de base faire des références à René Magritte, qui est peintre, et donc je pense que je me suis pas trop plantée. Par exemple, dans le film, à un moment, on a un gros plan et on a une histoire avec une pomme verte. Ça, je pense que c'est pas anodin. Ça me fait penser à un tableau de René Magritte qui s'appelle Le Fils de l'Homme, où on voit, il est très célèbre, cette énorme pomme verte devant le visage d'un homme qui, en plus, a la même silhouette qu'Oppenheimer. Donc ça, c'est assez rigolo. Et en fait, ce tableau-là, il questionne justement les paradoxes. Comme le dit René Magritte lui-même, une chose peut en cacher une autre et une chose ne saurait exister sans son mystère. Donc je pense que c'est pas anodin, ces références-là. Chaque chose en cache une autre. Et on a un combat entre le visible, caché et apparent. Et ce qui est marrant, c'est que dans le trailer de Oppenheimer, on le voit avec son chapeau melon de dos et on le voit de face, exactement comme la série de tableaux. On a aussi une autre référence que j'ai vue dans La trahison des images, qui est aussi un tableau de René Magritte et qu'on connaît plus sous le nom « Ceci n'est pas une pipe ». On le voit une pipe sur le tableau. Ce tableau date de 1929 et questionne pareil sur la réalité des choses. Non, ce n'est pas une pipe, c'est l'image d'une pipe. Et quelque part, la bombe, ce n'est pas une arme, c'est l'illustration de la science ou du mal. C'est l'illustration de quelque chose, ce n'est pas juste une bombe. Donc, dans Oppenheimer, le film montre que non, lui-même, cet être humain, Oppenheimer, n'est pas juste une bombe. Il y a autre chose.
Mais la vraie question, est-ce qu'on voit la bombe exploser sur Nagasaki et Hiroshima dans le film ?
Non.
Voilà,
voir la bombe exploser à travers un film.
Non, t'es un zinzin, toi.
Moi, je voulais voir une bombe, j'ai pas
mais
vu.
Mais toi, t'es un zinzin,
tu la vois au début.
Si, t'en vois une, je suis
c'est
pas d'accord.
C'est pas forcément elle, mais tu
t'en vois les essais. Voilà, bon.
Mais le truc, c'est ça, c'est que.
C'est comme ça que t'essayes de désinguer le film. Waouh. Merci, Banzied. Non, je dis que Banzied, c'est comme ça qu'il essaie de désinguer le film. Génial.
Il joue le négationniste.
Ouais,
c'est pas les meilleurs arguments, du coup.
Non, mais au contraire, t'arrives au début du film, presque, tu peux te dire j'ai envie de voir la bombe, et à la fin, en fait, tu l'as pas vu, mais qu'est-ce que tu t'en fous ?
C'est pas ça qui est important, c'est vraiment. Puis même la psychologie du personnage.
Oh, elle a su rebondir dessus ! Putain !
C'est quand tu regardes l'acteur, le postulat c'est est-ce qu'il se sent coupable ou pas de ce qu'il a fait. Est-ce que sa création vraiment, en gros, est-ce qu'il regrette d'avoir été au bout. Est-ce qu'il est vraiment coupable ou est-ce que c'est fin. Parce que concrètement, en fait, Oppenheimer dans sa vie, il a passé sa vie à essayer, une partie de sa vie à construire la bombe atomique et la deuxième partie à dire qu'il fallait désarmer,
il fallait partir de l'armement nucléaire.
Et justement, c'est la deuxième partie qui lui est reprochée et qui fait que il se fait bouffer par l'opinion publique et qu'on essaye de le descendre avec ses accointances politiques, communistes, etc.
Mais de toute façon, il faut partir du principe, et c'est le cas, que le film, il questionne, mais il n'apporte pas de réponse. Hein.
Non, clairement.
Non, c'est à nous de faire notre propre avis, quoi.
Ouais.
Ok.
Mais t'as toutes les clés, par contre, pour pouvoir réfléchir et te dire, les deux sont viables, en fait.
Ok, très bien.
Excuse-moi, oui. Je te coupe. Je peux revenir vite fait sur un truc sur la mise en scène qui
m'a gêné. Je peux revenir sur un truc de l'intro, vraiment, qui m'a gêné.
Non, la mise en scène, je te fais confiance pour le montage.
Non, il n'y aura aucun montage, frérot.
Allez, t'es chaud. C'est que, tu sais, comme on l'a dit tout à l'heure, Ken, il revient à Barbieland et il instaure un petit peu le patriarcat. Il fait un espèce de. Il fait comprendre aux autres Ken que dans le monde réel, c'est les mecs qui dirigent et qu'il suffit de dire aux filles non, mais t'inquiète pas, suis nos ordres, ramène-nous des bières, t'as pas à réfléchir, le monde sera beaucoup plus simple. Et t'as une série de clichés là-dessus où, en fait, Barbie, elle arrive, elle voit que c'est le bordel. Que les Ken ont pris le pouvoir et c'est en train de devenir n'importe quoi. Et la seule façon de ramener les Barbies, d'enlever le lavage de cerveau aux autres Barbies, c'est de faire un discours féministe et de faire en sorte de piéger les Ken. Et pour piéger les Ken, qu'est-ce qu'elles font ? Elles sortent des clichés qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux ou sur les cinéphiles. Tu demandes à Ken de te décrire le film Le Parrain, et comme ça, il sera obnubilé par ça, et il parlera que de ça. Et il fera du mansplaining, ils étaleront leur science, alors qu'en fait, c'est juste un moyen de les distraire. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris dans le film, en fait. Mais du coup, voilà, c'était juste ça, et j'ai pas eu le temps de revenir dessus.
Mais c'est pas grave, t'excuses pas. Moi, je trouve ça quand même intéressant, même de revenir. On est toujours dans la manche 3, hein, donc t'as le droit de revenir sur la mise en scène. T'as rajouté quelque chose qui est, mine de rien, assez pertinent. Je suis limite, waouh, c'est incroyable. Non, ça va, arrête.
De toute façon, pour le final, on explose Oppenheimer au box-office. Donc, voilà.
Donc t'es en train de dire que l'opinion publique générale, ça représente la qualité d'une sortie ?
Vive, qu'est-ce qu'on a fait, oh mon Dieu !
Ouais, voilà.
On vous laissera débattre de ça plus tard, mais effectivement, qu'est-ce qu'on a fait, oh bon Dieu ? Ça fait un carton, voilà. Il est temps de passer aux résultats, hein, voilà.
Allez.
Je vous rappelle que je n'ai vu aucun des deux films. Sur la première manche, sur le scénario, j'ai décidé de donner un point pour le film Barbie, puisque effectivement, là où le scénario était peut-être, j'allais dire cousu de fil blanc, après ça reprend un roman, donc c'est un peu compliqué de dire je donne pas de point non plus à Oppenheimer, mais je trouve que des films où les scénaristes, les réalisateurs et tout ont une vraie carte blanche, c'est hyper rare. Donc rien que pour ça, je donne le point pour Barbie. Ensuite, la deuxième manche, le jeu d'acteur. Je donne un point pour Oppenheimer. Parce que... je donne un point pour Oppenheimer. Ouais. Parce que effectivement, tout ce qui est les rôles principaux, les seconds rôles et tout, même si dans les deux, clairement, les deux, on a des castings chorales. C'est vraiment... tu fais « Waouh, attends, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il y a tout Hollywood qui s'est dit « Viens, cet été, on fait deux films, c'est tout. »
C'est un peu l'idée.
Mmh. Ah ouais, non, clairement, il manque Nicolas Cage et c'est bon. À moins qu'il soit dans un des deux. Tiens, c'est... Vraiment, non, mais quand tu regardes le truc, tu fais « Waouh !» Et effectivement, il y en a un où t'as plus l'impression que c'est... j'allais dire casting, pas film indé, mais un truc qui s'en rapproche, mais je sais pas si vous voyez l'idée, un truc un petit peu plus populaire pour Barbie, et pour Oppenheimer, on a un petit peu, ça contrebalance un petit peu, j'ai l'impression.
C'est juste hyper plus profond dans Oppenheimer, sujet traité n'est pas le même, et là-dessus, c'est pas trop comparable.
Bien sûr.
Oui, en plus, là-dessus, Julia a raison, en soi, le casting Barbie, c'est pas...
Comme
on a dit, hein, c'est Sex Education, il y a des acteurs d'Hollywood, mais
il y a Umbrella Academy aussi.
C'est pas comparable, en fait, tout simplement parce que ça traite pas la même chose, même pas sur la manière de commencer à jouer. Donc c'est juste une question de préférence et là-dessus Flo a choisi quoi.
Et puis comme ils l'ont dit Sab et Julia, en 3 heures de film, les acteurs jouent tellement bien que tu vois pas vraiment le temps passer, en fait.
À partir de là, déjà, ça marque un point aussi.
Et pour la troisième manche, la mise en scène. Oh là là, il y a un. Oh là là, pour la mise en scène, j'ai choisi de donner un point et ce sera le point de la victoire, donc pour Oppenheimer. Voilà, ouais, pour Oppenheimer.
Alors, vas-y,
Gus, je veux voir si tu veux dire la même chose que moi.
Attends, c'était sympa, culturez-vous.
Attends, non, attends.
Avant que, Seb me fait des doigts, j'ai juste une chose à dire, c'est que si, si Julia et Seb... Avec ce qu'on dit, Julia et Seb, j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir Oppenheimer, en fait.
Bien sûr.
Nickel.
Ah, mais bah, moi, j'ai vu les deux et je conseille les deux, hein.
On a juste deux films différents, un beaucoup plus profond, l'autre, comme on a dit, une comédie basée sur l'humour. Donc ça dépend en fait juste ce que vous avez envie de voir au moment où vous allez au cinéma. Si vous avez envie de rigoler et de passer un super moment.
Pour moi, Barbie fait très bien le taf, en vrai. Après, c'est plus que pour en aller en voir un au cinéma, c'est vrai que du point de vue de décor, Barbie, ça vaut le coup. Et Oppenheimer, il y a des effets aussi.
Toujours un travail de son dans Oppenheimer.
Pour des raisons différentes, ça vaut le coup d'aller les voir au ciné. Mais c'est vrai que pour moi, Oppenheimer, c'est clairement le film de l'année.
Alors,
je m'y attendais pas.
Alors, du coup, sur ce point-là, je te rejoindrai. Je pense, du coup, j'ai pas vu Oppenheimer, mais sur le principe, je pense pas que Barbie soit le film de l'année, tu vois. Juste, il est super, c'est génial, mais en fait, c'est pas le film de l'année. Ça, je suis d'accord.
Oui. Alors, du coup, pour moi aussi, c'est une grosse claque de juste se dire qu'Oppenheimer, c'est vraiment le film. Même s'il a été encensé par la critique et tout, tu te dis pas, j'y vais et putain, je vais kiffer, ça va être génial pendant 3 heures, je vais pas voir le temps passer. C'est ça, en fait, qui fait la force vraiment du film pour moi. C'est ce côté inattendu, même si on te le vend comme un gros film.
Et surtout sur des faits historiques qu'on connaît quasiment déjà, en fait, dans les grands films.
Malgré que ce soit inspiré du roman,
en soi, c'est l'histoire de la création des bombes. En soi, on sait la finalité, tu vois. Donc, en faire justement quelque chose qui dure 3 heures et où t'apprends encore des choses, c'est.
Et où t'as pas l'après. En plus, c'est même sur la genèse et où t'as même pas de.
Le reste, on le connaît.
Ouais, mais c'est ça, en fait. Ça, le pari fort, c'est qu'on te le vend en disant c'est un film sur la bombe atomique, il parle pas de la bombe atomique.
Et en faire 3 heures et que tu te fais pas chier, c'est
le truc est là. Après, bien évidemment, les deux films sont tellement différents, il y a tellement de choses à dire sur ces films que, bien évidemment, là, on s'est dit, on va faire une petite battle, il y a un choix à faire, mais en vrai, il n'y a pas de choix, les deux films sont tellement différents. Si vous avez envie de voir une comédie, allez voir une comédie. Si vous avez envie d'aller voir un film un petit peu plus profond qui raconte des trucs historiques, allez le voir. Gus,
est-ce qu'au final, ce ne serait pas Barbieheimer qui est gagné?
Bah, on verra quand il sortira.
Oui, parce que le film est vraiment annoncé, par contre, Barbieheimer. Enfin,
génial.
C'est
les Barbies qui vont créer la bombe atomique.
Ouais, Barbieheimer est annoncé. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça a tout l'air de commencer par être un nanar. Voilà.
Un studio indien indépendant qui le fait.
Non, je crois que c'est studio américain, mais enfin studio, tu vois, pas la NBA si on peut parler, mais la G League quoi. Pas la Ligue 1, mais la Ligue 2. Voilà.
Il y a Singam en acteur principal.
En vrai, me chauffe pas, je signe tout de suite. Pour une trilogie.
Pour l'avant-première.
Ah, mais la trilogie avec le gars, direct, vraiment, ça part.
Du coup, Flo, je crois que t'auras pas le choix que de nous faire une chronique sur Barbieheimer quand il sera sorti.
Et ben voilà. Allez, c'est sur ça que je ne voulais pas terminer. Non, mais bien sûr, on sera obligé d'y passer. Et de toute façon, vous le regarderez avec moi. Non, et ben voilà. Moi, ça m'a fait plaisir de prendre les micros. Hein.
Toujours.
Ça faisait. Alors, j'allais dire, ça faisait longtemps. Oui, pour Culturims, effectivement, ça faisait longtemps. Moi, je fais des petites apparitions dans des podcasts, à droite, à gauche. Je rejoins d'autres équipes de podcasts, mais je suis toujours présent pour Culturims. Ça m'a fait plaisir de vous revoir.
Le gars est infidèle, mais il dort toujours dans le même lit le soir. C'est ça. C'est beau.
Parce que je prends une douche. J'ai le droit.
C'est ça, l'amour. Être propre.
Je vous remercie d'avoir participé à cette première de la saison et on n'espère pas la dernière. Hein.
On n'espère pas. Ouais.
Parce que voilà, c'est.
On pourrait vous surprendre.
La troisième va vous surprendre. Voilà, on est obligé d'en faire 3 maintenant. Allez. Non, mais on espère revenir assez vite. Effectivement, au début, on avait dit ce sera plus hebdomadaire. Alors effectivement, hein, ça a pas loupé.
On a
fait 4 émissions. Mais l'envie, malgré tout, était toujours là. Mais c'est, voilà, je pense que les emplois du temps des uns et des autres, le fait que tout le monde soit un peu éparpillé dans la France maintenant, et rendu les choses un petit peu plus compliquées. Mais on va essayer de revenir pour cette saison. On va essayer de revenir avec, avec le culturisme que vous connaissez toujours. Calme-toi, Olivier Mine, arrête. Donc voilà, c'était un vrai plaisir de vous avoir sur cette émission. Merci Seb, merci Julia, merci Gus, merci Banzienne. Je vous rappelle que vous pouvez bien évidemment écouter les épisodes précédents sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer et un petit peu toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, bien évidemment Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez venir nous parler, on mord pas, à part Banzienne, mais ça c'est parce qu'on le nourrit une fois par mois. Voilà. Non, ça fait 15 jours que t'as pas mangé, c'est très bien comme ça, c'est encore 15 jours. Voilà.
J'aurais dit 8 mois.
Je vous remercie encore une fois pour vos écoutes. Je vous remercie les copains d'avoir été là. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, cœur sur vous et puis bah, bien sûr, hein, culturez-vous.